Chaque semaine, votre émission Bayenne vous est proposée dans le cadre des échanges de production radiophonique entre radios associatives.
Philosophie de terrain. Nombre croissant de philosophes se reconnaissent dans cette expression qu'ils revendiquent pour décrire leur démarche, à savoir se réapproprier sous diverses formes ce que les sciences humaines et sociales ont thématisé comme des enquêtes de terrain.
Belle et rebelle, c'est votre émission Bayenne avec Moussa Alem.
Et ces pratiques philosophiques soulèvent des questions à la fois méthodologiques, épistémiologiques, éthiques et politiques. Et votre émission, mesdames et messieurs, dans laquelle je vous souhaite la bienvenue, se veut porteuse d'un témoignage comme d'un engagement, témoignage de l'ouverture et de la créativité de cette frange de la philosophie contemporaine et engagement en faveur des dynamiques collectives qui interrogent et renouvellent la manière dont les savoirs sont produits. Et notre témoin pour aujourd'hui est Sophie Gigot, philosophe et auteure de plusieurs ouvrages, dont « Sécession », paru aux éditions Brochet, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour vous.
Au plus proche de vous, avec Moussa Alem, sur votre radio.
Et en plus de ses écrits, notre invitée ne s'en cache pas, elle est engagée dans l'association qu'elle a fondée en 2018, Migraction 59, qui regroupe des citoyens de tous bords qui accueillent des migrants dans le Pas-de-Calais le temps d'un week-end. Sophie Gigot, vous êtes philosophe et aujourd'hui nous allons évoquer avec vous l'un de vos ouvrages que vous avez écrit et l'idée de départ c'est le meurtre d'un jeune, Amine Meknoun, pour ne pas le nommer, qui est originaire de Neuville-en-Ferrin. C'est ça qui vous a donné l'idée de départ du livre ?
Bonjour et merci de votre invitation. Alors en fait non, l'idée de départ du livre c'est quand j'ai commencé à faire du terrain dans des quartiers populaires de Roubaix, en particulier à l'Alma, et que j'ai été frappée d'entendre des choses que moi, en tout cas, n'habitant pas dans les quartiers populaires, je n'entendais jamais. C'est-à-dire pas du tout des questions relatives au communautarisme ou au séparatisme, qui est au fond l'angle choisi dans la plupart des médias pour traiter des quartiers populaires, mais des questions relatives au plan de renouvellement urbain, aux luttes des habitants pour maintenir une certaine qualité de vie, aux solidarités, etc. Et ce qui m'a justement frappée, c'est de voir la violence très invisible à laquelle les habitants étaient soumis à travers ces plans de renouvellement urbain, des gens qui ont passé 50 ans dans le quartier, qui vont être déplacés et qui n'ont absolument pas voix au chapitre. Et il me semblait qu'il y avait un contraste assez saisissant entre cette violence très peu documentée, invisible, pas spectaculaire, et ce qu'on appelle les violences urbaines, qui précisément surgissent dans le contexte que vous avez évoqué, c'est-à-dire un jeune issu de quartier populaire se retrouve tué par un tir policier en général, et effectivement là surgit une forme de violence. Et là on associe les quartiers populaires à la violence, mais toujours sous ce prisme-là, qui est le prisme de criminalisation des jeunes des quartiers populaires. Moi ce qui m'a intéressé, c'était de voir qu'il y a effectivement de la violence dans les quartiers populaires. Elle est quotidienne et c'est pas celle-là.
Cette violence, vous dites que les populations des quartiers populaires, notamment les jeunes, y sont surexposées.
Oui, ils y sont surexposés parce que peut-être qu'ils ont plus d'énergie pour protester, ou en tout cas ils essayent de protester d'une manière différente de celle de leurs aînés, qui vont plutôt tenter de négocier avec des autorités, etc. Ils sont un petit peu la voie du désespoir, je trouve, ces jeunes. C'est-à-dire quand tout a été tenté, eh ben effectivement, on en vient à une violence un peu désespérée et plus spectaculaire. Mais l'engagement des jeunes vis-à-vis de leur quartier ne se limite pas à ces petits moments où la violence surgit. Il y a aussi un investissement des jeunes dans les discussions, dans les collectifs contre les plans de renouvellement urbain, ou tout simplement de l'investissement dans des associations de quartier. Donc ils sont là autrement, à nos yeux. Le « nos yeux », c'est un « nous » très très général. Ils n'existent qu'à ces moments d'émeute. Mais je trouve ça très dur de les assigner à cet unique rôle, alors qu'ils sont là. D'ailleurs, beaucoup de jeunes, y compris qui ont 18 ou 20 ans, sont aussi des parents, ont déjà des enfants, ont des vies de famille, ont des responsabilités. Et donc je trouve qu'on va très vite en besogne de les criminaliser et de les assigner à cette figure très vide, finalement, du délinquant.
Les criminaliser, on l'a fait aussi pour les habitants, les adultes. Dès qu'il y a une tentative d'organisation des habitants pour ce qui les concerne en premier lieu, il y a tout de suite une répression à bas bruit, diront certains, même plus, puisque lorsqu'on voit ce qui se passe à Roubaix aujourd'hui, il y a des drones qui surveillent le quartier de l'Alma.
Oui, exactement. Alors, à chaque fois que des collectifs représentent la parole des habitants du quartier, les pouvoirs publics ont tendance à délégitimer leur parole, à les accuser de confisquer le débat ou d'agir pour des intérêts qui seraient les leurs. On ne sait pas trop lesquels d'ailleurs, parce que finalement, on voit bien qu'ils représentent un intérêt collectif. Ou alors d'empêcher les pouvoirs publics d'exercer une réelle concertation directe sans ce corps intermédiaire que serait le collectif, etc. Donc la constitution de collectif fait peur quand même aux pouvoirs publics à l'évidence, et leur stratégie consiste à essayer de discréditer tous ceux qui essaieraient de porter cette parole, de porter des négociations ou une protestation, et à les discréditer de manière parfois très violente, en coupant des subventions, par voie de presse aussi, en criminalisant les gens par voie de presse, etc. Il y a un coût de la lutte aussi, hein, dans les quartiers populaires comme partout.
Bayen, la bande originale des quartiers populaires, avec Moussa Alem.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon drap il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Qui m'ouvrit ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris.
Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés y allaient. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Les Enfoirés, lesquels, pour leur 20e anniversaire, ont repris ce titre écrit en 1954 et interprété par Georges Brassens, qui y fait l'éloge de la solidarité quelques mois après l'insurrection de bonté de l'abbé Pierre. Et ne cherchons pas midi à 14h, qui resterait insensible à son message de fraternité et de solidarité avec cette chanson qui semble si facile à fredonner et qui a trouvé et trouvera toujours un écho tant que des gueuses et des réprouvés seront en quête de quatre bouts de bois ou d'un peu de miel.
On connaît la chanson dans votre émission Bayenne avec Moussa Alem.
Sophie Gigot, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et entre autres Sécession, paru aux éditions Brochet. Vous êtes philosophe de terrain, d'où cette réflexion un peu particulière, qu'on n'entend pas beaucoup en tout cas, et notamment sur le lien entre la philosophie et les trajectoires migratoires.
Quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, qui n'étaient pas du tout les questions qui me préoccupaient, c'était en 2015, c'est parce qu'il m'a semblé qu'il ne fallait pas se détourner du réel. Moi, j'ai enseigné très très longtemps dans le Pas-de-Calais, donc à proximité de la frontière, et il m'a semblé que la philosophie était un outil tout à fait précieux pour affronter ces questions, pour produire des contre-discours par rapport à certains discours médiatiques, et puis tout simplement pour outiller les gens qui ne comprennent pas tout à ces questions qui sont extrêmement complexes et qu'il faut absolument se prémunir de trop simplifier. Donc j'ai essayé de forger des outils en allant sur le terrain, en empruntant effectivement aux sciences sociales pour documenter la vie aux frontières, ce que c'est que la vie en transit, ce que c'est que la situation des personnes migrantes qui se retrouvent à passer de longs mois dans des campements de fortune, parce que en dépit du droit international, à cause d'accords bilatéraux que sont les accords du Touquet, cette frontière se retrouve verrouillée et donc la liberté fondamentale de circuler se retrouve entravée. J'ai essayé d'utiliser les armes qui sont les miennes, celles de la philosophie, pour essayer au moins de comprendre cette situation et peut-être aussi d'envisager des pistes de solutions pour sortir des difficultés.
Vous êtes même allé plus loin puisque vous avez fondé l'association Migraction 59. Il y avait besoin de cet outil pour concrétiser justement ce que vous venez de nous dire.
Je crois que c'est quelque chose sur lequel les gens qui font de la philosophie de terrain réfléchissent beaucoup, le rapport entre la recherche et l'action et l'engagement, une forme d'engagement mais qu'on retrouve chez des philosophes très classiques, hein, Jean-Paul Sartre, c'est pas non plus on est en train de réinventer l'eau chaude, hein, ça n'a rien d'inédit non plus. Et pourquoi on a monté ce collectif qui fait de l'accueil citoyen? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Calais, beaucoup d'associations sont dans une logique humanitaire, qui est nécessaire mais qui cultive une certaine dissymétrie, c'est-à-dire c'est typiquement la relation entre un aidant et un aidé. Et c'est pas facile à vivre pour celui qui reçoit et qui est aidé. Et donc l'idée de l'accueil citoyen, c'était de restaurer un peu l'égalité, parce que les personnes qu'on accueille sont tout simplement nos invités. Donc on les aide pas, on partage un week-end, c'est très différent.
C'est cela que vous appelez le concept de subalternité?
Alors la subalternité, c'est le fait pour des personnes d'être assignées à une position sociale, politique, qui les prive de parole, qui fait que leur parole n'existe pas, n'est pas entendue. Et moi, quand j'ai fait du terrain à Calais à l'époque du bidonville, donc en 2015-2016, il y a eu, au moment de la destruction d'une partie du campement, une grève de la faim d'exilés iraniens qui s'étaient cousus les lèvres. C'est une pratique qui se fait beaucoup chez les Kurdes, dans les prisons qui existent en Turquie, où il y a des centaines et des centaines de Kurdes. C'est une pratique assez malheureusement courante. Et j'avais trouvé ça saisissant, le fait que des personnes se cousent les lèvres pour se faire entendre. Ça en disait long sur la manière dont le politique assigne au silence, à l'invisibilité et donc à la non-existence ces personnes qui sont présentes, leurs corps sont là, existent, qu'on le veuille ou non.
Et pour exister, selon vous, il faut sortir du jeu?
Eh bien, je crois que parfois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on veut pouvoir exister dans le débat public, en tout cas, les circuits institutionnels classiques ne le permettent pas. Donc, il faut créer des circuits parallèles. Il faut essayer de se donner ses propres règles dans un jeu qui va être, du coup, beaucoup plus démocratique. C'est l'idée de l'autonomie, mais je pense qu'elle a une certaine puissance et que dans des petites échelles, elle peut se réaliser. Et c'est aussi l'idée que j'ai essayé de travailler d'une autre manière dans le roman Sécession qu'on a évoqué tout à l'heure.
Ce sont les combats que nous livrons qui nous définissent.
Moussa Alem rend le monde meilleur sur votre radio.
Et rendre le monde meilleur, c'est aussi agir. Et je vous le rappelle, le délit de solidarité n'existe plus depuis 2012. C'est ce que tient à préciser Migraction 59, le collectif d'hébergement citoyen présidé par Sophie Gigot, que nous recevons aujourd'hui, avec laquelle nous évoquions la sécession et l'autonomie. Ce qui me fait penser aux ZAD, vous avez vu la répression que subissent les ZADistes?
Oui, absolument. Pour moi, il y a deux points qui cristallisent la répression en France, c'est les campements de migrants et les ZAD, pour des raisons différentes, mais qui sont quand même liées. Et effectivement, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps, donc ils ont réussi quand même, ils ont triomphé, mais au prix d'une exposition extrêmement forte de leur personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que quand on entre dans ce type de lutte et de conquête de l'autonomie, ça se fait dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, tout engagement a un coût. Pour les zadistes, il a été effectivement très très élevé.
D'autant que l'arsenal répressif institutionnel, il est là. Est-ce que sécession, c'est une réponse à séparatisme?
Oui, effectivement, sécession joue ironiquement sur ce séparatisme qu'on renvoie d'abord dans le discours politique sans cesse aux quartiers populaires qui seraient accusés de pratiquer le séparatisme quand on se rend compte qu'en réalité, il s'agit tout simplement de logiques d'exclusion qui instaurent de la ségrégation spatiale et évidemment sociale, exclusion à plein de titres. Pratiquée par des institutions, justement. Et donc, Sécession, c'est un roman qui travaille l'idée de vous nous accusez de pas jouer le jeu, mais ce jeu est truqué. Donc, on ne peut pas le jouer parce qu'on sait que si on le joue, on perd systématiquement.
C'est une illusion, selon vous.
Mais oui, c'est une illusion. On voit très bien qu'il y a un verrouillage des dispositifs démocratiques, de l'égalité des chances, comme on dit. Un verrouillage, en fait, de tous les mécanismes dits républicains qui sont confisqués par les uns au détriment des autres. Et donc, quoi. On va demander à des gens de faire un effort extraordinaire pour jouer à un jeu dont ils sont destinés à être les perdants. Il y a quelque chose de terrible, en fait. Et ça, les gens des quartiers populaires en sont quand même bien conscients. Donc, au bout d'un moment, on peut se dire que c'est tentant de sortir du jeu. Alors, on peut sortir du jeu via l'économie parallèle. Effectivement, ça peut être une façon de le faire, et elle se fait, soyons pas naïfs, dans les quartiers populaires, bien sûr. Mais moi, j'ai envisagé une façon plus politique de sortir du jeu, en se disant, bah, très bien, on crée notre propre jeu, on se donne nos propres lois, et on écrit une charte de l'ALMA, et on va vivre en autonomie, et on va vous montrer que c'est possible.
L'ALMA à Roubaix ou ailleurs. Sécession, donc, qui est un roman aussi sur la jeunesse, Sophie Gigot.
On a tendance à caricaturer un peu les jeunes générations qui seraient uniquement des consommateurs, qui seraient tout le temps sur leur smartphone. Mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a aussi chez les jeunes, y compris et surtout dans les quartiers populaires peut-être, beaucoup d'idéalisme qui ne trouvent pas forcément de canal pour s'exprimer. Et une volonté d'agir et une volonté de faire quelque chose parce qu'on est animé par des idéaux de justice, d'égalité, etc. Et Sécession rend hommage aussi à cette jeunesse politisée, animée d'idéaux. Elle n'est pas la seule, celle des quartiers populaires. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on inclue la jeunesse dans les mouvements politiques, qu'on fasse confiance à nos jeunes, parce que c'est eux qui construisent l'avenir, évidemment, mais ils ont de la ressource.
Il y en a qui leur parlent, hein, à cette jeunesse dont on dit qu'on ne leur parle pas, notamment le Rassemblement National. Lui, leur parle.
Et oui, et dans ces sessions, il y a le personnage de Nathan qui part de très nobles idéaux et qui va se retrouver dans un groupe fasciste parce que malheureusement, la difficulté à exprimer cet idéalisme, eh ben, elle aboutit à ce résultat-là, c'est que cet idéalisme, il va se dévoyer dans trouver des issues qui sont celles qui existent, qui sont celles qui sont activement proposées à beaucoup de jeunes. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail à faire.
Pour conclure, on a beaucoup parlé de co-construction, mais la solution, c'est ça, c'est toujours militer et continuer à co-construire.
Mais c'est-à-dire que la co-construction, elle existe déjà dans les quartiers populaires entre les habitants, où il y a du dialogue, il y a des désaccords, il y a des espaces pour essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on veut pour le quartier. Et ça, c'est littéralement de la co-construction. En revanche, ce mot, on finit par ne plus pouvoir l'utiliser parce qu'il est confisqué par des institutions ou des élus qui prétendent l'utiliser sans réellement le faire. Et donc ça finit par vider de son contenu un terme tout à fait louable.
Merci Sophie Gigot, philosophe, dont vous pourrez lire les ouvrages, et entre autres Les migrants de Calais, enquête sur la vie en transit aux éditions Agone, aux frontières de la démocratie, de Calais à Londres, sur les traces des migrants, aux éditions Le Bord de l'eau, sans oublier Sécession, aux éditions Rocher.
Bayenne sur les réseaux pour rester en contact avec Moussa Alem.
Et pour rencontrer Sophie Gigot, rendez-vous, si vous êtes en région parisienne, au centre Pompidou, lundi 4 mars, à partir de 19h, pour une conférence sur la philosophie de terrain. Elle sera en compagnie d'Alexis Cuquier, maître de conférences en philosophie, et Théophile Lavaux, docteur en philosophie politique. Entrée libre dans la limite des places disponible. Et pour découvrir Migraction 59, ce collectif d'hébergement citoyen qui aide les exilés de Calais à survivre. Et je vous précise que l'association ne fait pas passer les frontières. Eh bien, rendez-vous sur migration59.net, migration59.net ou encore sur la page Facebook Migration 59.
Faire France ensemble, c'est dans Bayenne. Avec Moussa Alem.
Et après, Les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. C'était Les bonheurs de Sophie sur votre radio, et par les temps qui courent, croiser des acteurs de terrain, et en l'occurrence une actrice, ça fait du bien. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs, même fréquence, même radio, même heure. D'ici là, portez-vous bien, promettez-nous d'être heureux, dites « je t'aime » à celles et ceux que vous aimez, et que la vie vous soit douce.